une histoire particulière. L'histoire racontée hier dans le premier épisode fait frémir. C'est un meurtre, odieux, trois personnes, un massacre. Le soir du drame, Henri Girard, 24 ans, dort avec les trois victimes dans le château familial d'Escoire, dans le Périgord. Pas d'effraction, aucun vol, il y a encore des liasses de billets dans les tiroirs. Sur la scène du crime, les premiers gendarmes arrivés à l'aube du 25 octobre 1941 retrouvent une serpe couverte de sang que le jeune homme avait empruntée quelques jours auparavant. Pour faire bonne mesure, Henri Girard est millionnaire, car unique héritier de son père et de sa tante. Il crie cependant son innocence. Mais alors, qui est coupable du triple meurtre du château d'Escoire? La suite maintenant, grâce à la complicité de Philippe Janada et bien sûr d'Alexandre Hérault et Yvon Croisier.
Le 27 mai 1943, à 9h du matin, commence au tribunal de Périgueux le procès devant la cour d'assises de la Dordogne du nommé Girard Henri Georges Charles Achille, né le 16 juillet 1917 à Montpellier, étudiant demeurant à Paris, accusé de parricide, d'assassinat et de meurtre sur les personnes de son père, Georges Girard, de sa tante Amélie Girard et de leur bonne Louise Soudex.
Henri Girard, alias Georges Arnaud, du triple crime d'Escoire au salaire de la peur, par Alexandre Hérault et Yvon Croisier.
Je tiens à dire tout de suite ici que ma conviction la plus intime et la plus profonde est qu'Henri Girard est coupable des crimes qui lui sont reprochés.
Oui, messieurs les jurés, Henri Girard est coupable.
Puis Maître Garçon prend la parole.
Messieurs de la cour, messieurs les jurés, je veux que mes premières paroles soient pour rapporter ici un témoignage d'amitié. Georges Girard, en effet, était mon ami, et vous comprendrez mon angoisse d'être appelé à défendre son fils, celui qu'on veut absolument considérer comme son meurtrier. Quel ami oserait défendre l'assassin de son ami? Et pourtant, j'ai accepté. J'ai accepté de plaider en faveur de cet homme. Et si je l'ai fait, après avoir longuement et minutieusement étudié ce dossier avec mes éminents confrères, c'est que pour notre part, nous sommes absolument convaincus qu'Henri Girard est innocent de toutes les charges qui pèsent contre lui. Je ne m'adresse qu'à votre raison. Soyez juste. Et cette justice, messieurs les jurés, votre justice, se doit d'être éclatante et honnête. C'est pour cela que je vous demande d'acquitter Henri Girard et de lui redonner son honneur. Le procès d'Henri Girard est terminé, mais j'en prends ici l'engagement. L'affaire commence.
Alors que la veille encore, le public avait applaudi la partie civile qui demandait la condamnation à mort, au bout de 2 heures, le public s'est levé et il a applaudi la plaidoirie de Maître Maurice Garçon. Donc en 2 heures, il avait renversé l'opinion dans la salle et certainement parmi les jurés et également parmi les magistrats. Et chose extraordinaire, un quart d'heure après s'être retiré, les jurés et les magistrats reviennent.
Henri Girard, levez-vous. Après en avoir délibéré conformément à la loi, le jury à l'unanimité a répondu non à l'accusation du crime qui vous est reproché. En vertu de quoi, ce tribunal vous déclare innocent. Vous êtes donc libre. L'audience est levée.
Ce président de la cour d'assises, c'est l'une des révélations que contient votre ouvrage sur le triple meurtre du château d'Escoire, Guy Penaud. Vous avez fini par connaître un peu plus de son pédigré et selon vous, il aurait été à même d'influencer quelque peu le déroulé de ce procès?
Oui, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir consulter le dossier conservé par Maître Maurice Garçon. Et là, j'ai découvert des choses absolument extraordinaires concernant ce président de cour d'assises, le président Hurlot. J'ai découvert que cet homme-là avait été impliqué dans les années 30 dans l'affaire Stavisky. Et donc ce président se trouve à la cour d'appel de Limoges. Et que fait-il? Lorsqu'il apprend que Maître Maurice Garçon va être l'avocat d'Henri Girard, il rentre en contact avec lui en disant « Écoutez, voilà ce qu'il y a, c'est que vous connaissez ma situation. Dans l'affaire S. point, il n'a pas mis Stavisky quand même dans le courrier, vous savez que j'étais injustement condamné, etc. Est-ce que vous pourriez parler au magistrat de la cour, à tous ceux que vous connaissez, du tout le bien que vous pensez de moi ?» Et Maître Maurice Garçon lui répond, écoutez, vous savez que moi, ce qui m'importe dans ce dossier-là, c'est que mon client, Henri Girard, qui est innocent, ben, soit acquitté. Hein. Mais quant au magistrat dont vous m'avez parlé, vous pensez bien que je n'ai pas attendu votre courrier pour dire tout le bien que je pensais de lui. Donc, une sorte de marché avait été conclu à l'avance entre, d'une part, le président de la cour d'assises, d'autre part, l'avocat.
Maître Michel Labrou, gendre d'Adèle Lacombe, avocat à Périgueux d'Henri Girard.
Alors, dans ce dossier, vous avez une multitude d'arguments qui accusent Girard, c'est un fait, parce qu'il est le seul à subir cet assaut de présomption. Mais chaque élément de présomption a son contraire. Alors, ce qui fait le charme de cette affaire pour un pénaliste, c'est qu'il y a tous les ingrédients de l'acquittement. Pour le professionnel. Mais pour le profane, pour les gens du pays, c'est un coupable né. C'est le coupable idéal, parce qu'il y a la passion, il y a le désordre, il y a la débauche. Et le type qui veut avoir l'héritage de son père et de sa tante plutôt que prévu. Eh bien, c'est ce qui a conduit Girard aux assises. Et c'est ce qui a fondé l'acquittement. Avec la science, la technique d'aujourd'hui, cette affaire n'aurait pas dépassé le stade de l'instruction. C'est-à-dire qu'on a, par souci de facilité, pris qu'une piste.
Lesquelles on a oubliées en route, alors ?
Bien, on a oublié, à première vue, celle des voisins.
Les Tolus.
Le jeune Tolu vient d'arriver. Il revenait de l'armée, sans un sou, rien. Qui a touché la serpe dans la journée ? Autant Tolu, les Tolus que Girard. Qui connaissait le château ? Girard, les Tolus. Et qui, ça je n'y étais pas le matin, mais qui a rassemblé les entourages et tout, et qui a fait monter la mayonnaise de l'étudiant égaré, de l'étudiant dépensier, buveur, etc. Si vous voulez. Parce que quand ces braves paysans ont découvert Girard au piano, certes ayant crié au secours, mais jouant au piano avec une cigarette au bec, on s'est dit, ce n'est pas le fils de son père, c'est son criminel. Si vous voulez. La rumeur est partie de là. Alors, il y avait la piste, donc, des voisins.
La marche funèbre de Chopin.
La marche funèbre, oui. Tenez, je pensais que c'était Tristesse de Chopin.
Tristesse de Chopin.
C'est-à-dire que même vous en parlez du décor. La marche funèbre, non, ça serait plus approprié.
Il ne jouait pas quand même du jazz.
Parliez des autres pistes. La piste, disons-nous, politique. On en a parlé, parce que compte tenu des fonctions du père, avait-il la mallette, avait-il un agenda, avait-il ses notes personnelles, ses documents ont-ils été dérobés, les avait-il apportés, on ne sait pas.
Quelle mallette ?
Mais on parle d'une mallette.
On parle d'une mallette, qu'il était venu avec une mallette, le père.
Le seul indice que nous allons retenir de cette journée du dimanche 26 pour nous interviendra en 1985, c'est-à-dire plus de 40 ans après les événements, lorsque je découvrirai
Jacques Lagrange.
J'allais rajouter moi et moi seul, dans les archives du juge Farisi,
le juge d'instruction,
de ce procès, de pelure que le juge adresse l'une au ministre de des Affaires étrangères, l'autre au ministre de l'Intérieur à Vichy, et qui date de novembre 41. Monsieur le ministre, je viens d'apprendre et de me faire confirmer que l'inspecteur un tel, qui était mis à la disposition du commissaire un tel, a, toute affaire cessante, quitté Esquire, sans un référé à son supérieur, et a pris le train en direction de Vichy. Il m'est rapporté qu'au cours d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec des gens de votre service à Vichy, il aurait pris cette décision sur ordre de vos services. Que veut dire cette interrogation du juge d'instruction ? Et comme il y a un renouvellement de ces courriers qui sont demeurés sans réponse, j'en ai déduit, à force d'avoir épuisé les archives du juge d'instruction Farisi, qu'il n'a jamais su pourquoi un inspecteur de police avait quitté en emportant quelque chose. Alors on songe à cette serviette Et il fut un temps pas si éloigné où un élu du Périgord était en charge du Quai d'Orsay. Et comme je sentais qu'il pouvait être en bonne disposition à mon égard, je lui ai dit qu'il y avait quelque chose qui pourrait me passionner, c'était avoir accès au dossier de Girard au Quai d'Orsay. Et je revois notre ministre se pencher en arrière dans un grand éclat de rire et me dire « Mais mon ami, il n'y a pas de secret d'État et il n'y aura jamais de dossier Girard au Quai d'Orsay. Pensez donc. »
Donc, 50 ans plus tard, en 83, quand vous travaillez sur cette hypothèse-là, vous n'avez pas de réponse, au même titre que le juge d'instruction Farizi ne recevra jamais de réponse. Alors, quelles sont les hypothèses que l'on peut ensemble, Jacques Lagrange, décliner? Tout d'abord, on a évoqué la possibilité que les services secrets allemands aient été chargés d'exécuter un haut fonctionnaire aux sympathies résistantes susceptibles d'entrer en possession de documents compromettants. Oui. Première hypothèse.
Oui, il est permis de le penser, il est permis de l'envisager, mais on n'en sait pas assez pour aller plus loin. La seule chose que l'on connaisse, c'est que lorsque au procès on cite le ministre plénipotentiaire Funk Brentano, français, comme témoin pour venir qualifier la fonction réelle de Girard au Quai d'Orsay, il s'avance à la barre, on lui tend un papier, Monsieur le Président, je suis rappelé d'urgence à Vichy, et il quitte le tribunal. Et alors il y a un dernier petit point aussi que je soulève. Jour, on me dit, je viens d'acheter une maison de campagne dans la région d'Escouart. Je me doutais qu'il y avait des broutes apparentes au plafond. J'ai voulu les retrouver. J'ai crevé le plafond en plâtre et regardé ce qui m'est tombé sur la tête. 3, 4, 5 kilos de pelure de rapport. J'en lis un et je m'aperçois qu'il s'agissait des rapports de filature de police d'un agent du deuxième bureau. Et parmi les pelures, comme vous me l'avez demandé, je surveille de très près les mouvements des groupes royalistes qui tenteraient de se rapprocher d'Escouart.
Allons bon.
Mais j'avoue que quand l'Institut Louis XVII s'est trouvé intéressé par ce que je venais d'écrire dans la deuxième ou troisième édition de mon reportage sur le crime d'Escouart, j'ai été assez surpris qu'il y ait un amalgame qui puisse être fait. Oui, m'a-t-on dit, il peut y avoir eu, à un certain moment, au Quai d'Orsay, des documents qui accréditeraient la thèse de Louis XVII Nondorf, ce qui a sa tombe à Delft, en Hollande, et sur laquelle est écrit Henri de Bourbon.
Girard posséderait dans sa mallette le célèbre dossier rouge.
Écoutez, ça c'est allé très très loin et très rapidement, ce que vous venez de dire. Et ce n'est pas dans mes suppositions. Mais il a une mallette. Elle ne le quitte pas. Quand il arrive à Escouart le 24 octobre, il la tient à la main. Quand les gendarmes font leur enquête le 26, ils ne la trouvent pas, la mallette. Et l'Institut Louis XVII me dit, oui, il se pourrait que, au Quai d'Orsay, il y ait eu un document, et ce document nous intéressait. Est-ce que l'Institut Louis XVII a reçu le témoignage de ces gens-là, des groupuscules royalistes qui se sont approchés du château après le crime, et que l'agent du deuxième bureau était censé surveiller? Est-ce que ces gens qui avait un accent étranger et qui, quelques jours, là, le 20 ou 20 octobre, avant le meurtre, rôdait autour du château, et que les Lapierre, les Tolloux, les Kravik, les autres familles d'Anton ont vu qui c'était ces gens-là. Il y a toujours l'interrogation. Les gens veulent savoir la vérité. La vérité, c'est... Et Girard est-il l'assassin ?
Monique Lacombe, avec Michel Labrou, qui est votre époux, dans les mains, un exemplaire original du Salaire de la peur, paru en 1950. Henri Girard s'appelle alors Georges Arnaud.
Il s'appelle désormais Georges Arnaud.
À Maître Lacombe, à qui je dois tant, cet acompte de son ami Henri Girard, dit Georges Arnaud.
Voilà, tout à fait.
Vous avez des souvenirs ?
Si, j'ai un souvenir très personnel, un témoignage. Vous êtes rentré tout à l'heure dans cette salle, le bureau de famille, et quand vous êtes rentré, vous m'avez rappelé Girard, parce que vous êtes très grand. Et à sa première visite, moi tout jeune avocat, ne l'ayant pas connu, mon beau-père m'a appelé. Et vous pensez bien qu'il me tardait de voir ce personnage. Et me regardant dans les yeux, il me dit tout de suite, « Ah, jeune avocat, vous voulez savoir ?» Et il m'a dit, « Je ne suis pas un assassin. »
Georges Arnaud avait-il peur de regarder Henri Girard dans la glace de sa folle jeunesse ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Il s'est éteint en 1987, à l'âge de 69 ans, sans avoir dit mot du crime du château d'Escoire. Sans avoir dit mot, je disais, Gérard de Villiers, sauf peut-être à vous, le père des SAS, racontez-nous que vous a-t-il dit en aparté et sans témoin. Et dans quelles circonstances ?
C'était pas en aparté. C'était en 60. Vous dire l'année exacte, 63, 64. C'est peut-être un petit peu plus parce que il était parti s'installer en Algérie. Et j'allais le rencontrer pour. Je voulais racheter les droits de remake, les salaires de la peur. Et c'est là, après discuter de choses et d'autres, où j'ai dit, mais maintenant, bon, tout ça, c'est vieux, c'est très bien, mais est-ce que c'est vraiment toi qui les as tués ? Il m'a dit oui. Mais il ne m'a pas donné ses motivations.
Et la bonne, vous lui dites ?
Oui, la bonne, oui, mais j'étais énervé, j'étais pas moi-même, j'étais. Et je pense que. Moi, je pense que tout simplement, il ne pouvait pas laisser de témoin. Donc moi je pense que il a eu un moment de démence et puis après et justement les gens qui ont ces pulsions rayent tout de leur cerveau effacent tout. C'est pour ça ils sont pas du tout des gens après qui se ressassent ce qu'ils ont fait, au contraire ça n'existe plus après. C'est
et puis je crois qu'une fois qu'il vous confesse alors sur ces hauteurs d'Alger son acte odieux.
Oui, vous
lui dites, c'est quand même extraordinaire, pour être acquitté, il faut la majorité. Tu as eu la majorité, comment as-tu fait pour être acquitté ? Et là apparaît un début d'explication plausible.
Ah ben c'est pas un début d'explication, c'est une explication complète. Il attendait son procès. Et il partageait sa cellule avec un des chefs du FTP et des FTP locaux. C'est-à-dire les FTP, francs-tireurs partisans communistes, qui étaient extrêmement puissants dans la région. Et son avocat, donc l'avocat de Henri Girard, a été approché par l'avocat de ce FTP. Donc cet avocat de cet homme fait la proposition suivante à l'avocat d'Henri Girard, lui dit voilà, mon client a décidé de s'évader, mais il a besoin de votre complicité au moins passive. Voilà. Et si vous lui apportez cette complicité, vous serez acquitté.
Un gentleman agreement.
Voilà, un deal. Eh bien, les choses se sont passées comme ça.
En fait, c'est une affaire toute simple, semble dire les deux catégories de Périgourdin qui se passionnent encore pour le sujet. Pour les uns, il n'est pas l'assassin. Et puis, il y en a d'autres qui disent c'est lui qui hérite. La propriété est vendue peu après. Rien qu'avec le bois qu'un marchand forestier achète, il y a une fortune qui permet une grande vie. De sa libération le 3 juin 1943 à la libération de Paris le 25 août 1944, le fils Girard dépense la fortune que le marchand de bois lui a achetée en bamboche dans un Paris qui cherche à se libérer. Paris humilié, Paris outragé. Il n'a rien à foutre de la résistance, lui. Il dépense son argent avec des amis de rencontres qu'il a autour de lui. Et quand il n'a plus un sou, qu'est-ce qu'il va faire alors que du monde entier, on se retrouve à Paris ? Lui, il prend le bateau et il s'en va en Amérique du Sud. comme un nazi qui fuit l'Europe. C'est quand même quelque chose de troublant, disent les gens qui sont partisans de cette formule-là. Et qu'est-ce qu'il est au Venezuela ? Il est plongeur dans un café. Jamais il n'aura transporté la nitroglycérine, jamais il n'aura connu les épopées de la Standard Oil et autres, non ?
On ouvre La Serpe, votre roman enquête de plus de 600 pages, Philippe Genada. La Serpe qui remporta le prix Femina l'année de sa publication, 2007. Et on vous donne à lire ce qui est le dernier paragraphe du premier chapitre et qui était à l'époque donc une sorte de prologue. Et on va comprendre pourquoi.
18 coups de serpe dans le dos, Lily. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, juste avant de couper le son, quand le point d'exclamation orange est apparu pour me foutre mon voyage en l'air, sur le CD que j'ai emporté et commencé à écouter sur le périph. Il s'agit de l'enregistrement d'un documentaire diffusé en 2004 dans le vif du sujet sur France Culture, qu'on ne pouvait plus trouver en podcast et que Christine Bernard, ancienne assistante de l'émission, a eu la gentillesse de m'envoyer. On y entend Jeannette, la jeune voisine de Lily à l'époque, devenue vieille. 18 coups de serpe dans le dos. Elle se souvient, avec d'autres, de ce drame qui a laissé la pauvre Lily, et pas seulement elle, mutilée dans un bain de sang. De ce fait divers abominable, vers lequel je roule avec mon pneu dangereux. Jeannette avait 16 ans. L'assassin, elle n'est pas près de l'oublier. C'était un vrai démon.
Voilà. Philippe Genada, l'épilogue, ça serait quoi, aujourd'hui, en 2020 ?
L'épilogue, ce serait, j'aurais pas la prétention de dire qu'on en sait plus qu'en 2004 ou qu'en 1941. Puis moi, j'ai suivi un chemin qui peut ressembler à celui de l'émission d'ailleurs, puisque quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, parce que le petit-fils de Georges Arnaud, qui habite juste en face de la rue, là, m'avait longtemps conseillé, suggéré, poussé à écrire cette histoire, quand j'ai commencé, après 2 ou 3 mois de recherche, depuis Paris, mais quand même assez poussée et intensive, j'avais la certitude, ou presque, que son grand-père était coupable. Donc c'est en allant à Périgueux, c'est pour ça que le livre commence comme ça, en allant aux archives, en allant creuser la terre d'origine, que petit à petit, assez progressivement, sur un an ou deux au total, je me suis fait une opinion tout autre, c'est-à-dire une conviction, si ce n'est une certitude, de l'innocence de Georges Arnaud. Alors, il n'y a pas de, je suis pas un redresseur de tort puisque Georges Arnaud a été acquitté, donc il n'y a pas d'erreur judiciaire. Il y a une erreur peut-être d'opinion publique, c'est-à-dire que son acquittement a créé un scandale. Les gens qui ont connu cette histoire et qui ont connu Georges Arnaud, la majorité était encore persuadée en 2015 qu'il avait massacré toute sa famille à coups de serpe.
Il y a peut-être quelque chose aussi qu'on peut commenter ensemble, Philippe Genada, c'est cette fin à l'émission. On entend à l'époque Gérard de Villiers énoncer que Georges Arnaud lui avait, sur les hauteurs d'Alger, confessé que c'était bien lui le tueur. Vous vous rappelez ce qu'il nous raconte alors ?
De Villiers en a parlé ensuite, enfin en a parlé, l'a écrit dans son Sabre au clair, je crois que ça s'appelle, ses mémoires. Donc il détaille précisément ce que lui a dit Georges Arnaud, et quand on regarde ce que lui a dit Georges Arnaud, on a l'impression... Georges Arnaud, qui était un grand provocateur et un grand blagueur, mais un blagueur sombre, on a l'impression qu'il a casé des éléments pour qu'on puisse ensuite étudier ça, si jamais ça passait par l'esprit de quelqu'un. Il lui a déclaré des choses manifestement fausses. Par exemple, il parle de la prison où il était enfermé à l'époque, et il donne des détails sur cette prison qui sont faux. C'est-à-dire qu'il dit qu'ils étaient dans des cellules de 2 ou 3, alors que c'était des dortoirs de 40. Enfin bon, il donne plusieurs détails qui sont faux. Et puis surtout, quand on prend un tout petit peu de recul... Donc on s'étonne un peu que la seule personne dans toute sa vie, parce que toute la vie de Georges Arnaud, il n'a jamais parlé de cette histoire, sauf à une personne à qui, soi-disant, donc il dit la vérité, il avoue, ça soit, comme par hasard, Gérard de Villiers, qui est politiquement l'inverse de lui, et puis surtout, il savait, en le disant à Gérard de Villiers, il savait, il était sûr, il a bien choisi, que ça allait se répandre, et que Gérard de Villiers, évidemment, n'allait pas garder ça pour lui, c'était sa spécialité de recueillir des informations... dans les sous-sols et dans les milieux un peu borgnes et interlopes. Donc Georges Arnaud a bien joué le coup et on voit que c'est de la provocation, quoi. Que c'est une blague un peu sinistre, mais une blague quand même, je pense.
Alors, Philippe Genada, si vous n'avez pas, et tout de suite vous l'avez précisé, envie d'apporter la vérité, il y a au moins une vérité, il y a une piste, si c'est pas Georges Arnaud, à l'époque Henri Girard, qui a commis ce sinistre triple meurtre à la Serpe, qui cela put être ?
Alors, là encore, évidemment, je ne vais pas prétendre être le Columbo du temps et avoir résolu une énigme vieille de presque 80 ans. Bon, ceux qui n'ont pas encore lu le livre, bouchez-vous les oreilles ou passez sur France Inter, ou je ne sais pas. Je pense, c'est mon, mon hypothèse, une hypothèse forte en ce qui me concerne, que c'est le fils, quelqu'un du village, le fils des gardiens du château, tiens, qui se manifeste.
C'est qui nous appelle. Non.
Je le dis précisément, hein, voilà. Je pense, sans aucune certitude, je pense que c'est le fils des gardiens du château, qui avait une petite maison dans laquelle je suis allé, d'ailleurs, qui était vraiment misérable, dans l'enceinte du parc du château. Un couple qui était un couple furieux au fond d'eux-mêmes, parce qu'ils étaient assez maltraités par les Girard, mais un couple docile, mais le fils qui avait 20 ans, qui revenait des camps de jeunesse, qui avait côtoyé des jeunes comme lui qui jouaient au costaud et qui avait donc décidé de ne pas se laisser faire. Je pense que c'est lui pour une raison toute simple, qui est vraiment, moi ça a été la base de mon raisonnement logique, parce qu'après j'ai aussi, dans le dossier, j'ai découvert des courriers échangés entre Henri Girard à l'époque et son père, qui démentent tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y avait une tension très forte entre eux, une haine, etc. Au contraire, il y avait un amour presque nunuche, neuneux, tellement il aimait son père. Bref, la base de ma logique, c'est tout simplement, quand on écarte tous les parasites dans cette enquête, quand on recule un peu et qu'on enlève tout ce qui peut gêner le raisonnement ou l'enquête de police, il y a un homme qui dit « j'ai dîné avec ma famille et je suis allé me coucher à 23h », et il y a le jeune homme qui dit, le fils des gardiens, qui dit « je suis passé à 21h devant le château, tout était éteint, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait personne ». Un des deux ment. Et dans le livre, alors je mets 700 pages à l'expliquer, donc je peux pas le dire ici, mais dans le livre, je montre qu'à mon avis, Georges Arnaud, Henri Girard, ne ment pas. Donc, le fils des gardiens ment. S'il ment, ça veut pas dire que c'est lui l'assassin, mais enfin, ça le place quand même en mauvaise posture. Dans ce livre, je suis assez affirmatif, même si je mets des pincettes et du conditionnel partout, j'entraîne mon lecteur ma lectrice vers l'idée que Georges Arnaud est innocent. Mais en vérité, au fond de moi, si on me faisait une autopsie mentale, je n'en suis pas sûr à 100%, j'en suis sûr à 90%. 10% de chance ou de risque que je me sois trompé, c'est quand même pas rien. Donc oui, le parfum du doute, c'est évidemment ce qui est intéressant, mais c'est ce qui fascine tout le monde. Une fois qu'on l'a trouvé, quand on a fini un puzzle, on n'a pas tellement envie de le vernir pour l'accrocher chez soi, c'est complètement ridicule, c'est ringard, c'est moche. Et pourtant, on a été passionné par le... Où est ce petit morceau de ciel bleu avec une feuille verte qui devrait apparaître au milieu? Enfin bref, voilà. Savoir vraiment qui est le coupable, on a très envie, on a l'impression que c'est très important, mais peut-être heureusement qu'on ne trouve pas.
Henri Girard, alias Georges Arnaud, du triple crime d'Escoir, au salaire de la peur. Prise de son, Marcel Lebras. Documentation, Christine Gage. Archivina, Amélie Tramond, avec des extraits du film documentaire de Ramon Maramon, L'impossible innocence, diffusé sur France 3 Aquitaine, produit par les films Jacques Phébus. Le vif du sujet, Alexandre Hérault et Yvon Croisier.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous irons au 48 rue de la République à Saint-Denis. Mais c'est une autre histoire.